Chapitre 69. Suivons le vaincu dans sa fuite. Nous reviendrons ensuite au vainqueur. Quand Pompée, qui n'avait avec lui que quelques personnes, se fut éloigné du camp, il quitta son cheval et, voyant qu'on ne songeait point à le poursuivre, il marcha lentement, tout entier aux sombres réflexions qui l'occupaient en un pareil moment. Figurez-vous Napoléon après Waterloo. Et encore, chez Napoléon, c'était la nécessité. Il avait été forcé de combattre. Pompée, lui, avait repoussé tout accommodement. La veille encore, il pouvait se partager le monde avec César, prendre à son choix l'Orient ou l'Occident, et, s'il voulait absolument la guerre, venger chez les Parthes la défaite de Crassus, suivre dans l'Inde la route d'Alexandre. Mais Romain allait se heurter à des Romains, mais Pompée allait combattre César. Hier, Pompée était maître de la moitié du monde. Aujourd'hui, il n'est pas sûr de l'heure présente, pas maître de sa propre vie. Où se réfugiera-t-il? Il sera temps d'y songer plus tard. Il faut fuir d'abord. Il traversa Larisse, la ville d'Achille, sans s'y arrêter. Puis il entra dans la vallée de Tempée, que 20 ans plus tard devait chanter Virgile, grandissant au milieu de guerres civiles qui lui laisseront un si terrible souvenir. Pressé par la soif, il se jette le visage contre terre et boit au fleuve Péné. Puis, se relevant, il traverse la vallée et se rend au bord de la mer. Là, il passa la nuit dans une pauvre cabane de pêcheurs. Puis, dès le matin, montant dans un bateau avec les personnes de condition libre qui l'accompagnaient, il renvoya ses esclaves en leur disant d'aller trouver César et leur assurant qu'ils n'avaient rien à craindre de lui. Il côtoyait le rivage lorsqu'il aperçut un grand navire marchand prêt à lever l'ancre. Il ordonna aux rameurs de nager vers ce bâtiment. Le patron était un Romain qui n'avait jamais eu de relation personnelle avec Pompée et qui ne le connaissait que de vue. Il s'appelait Pétitius. Tout à coup, on vint dire à cet homme, qui s'occupait de son chargement, que l'on apercevait un bateau faisant force de rames pour arriver au navire, et que ce bateau portait des hommes qui secouaient leurs toges et tendaient les mains comme des suppliants. « Oh ! S'écria-t-il, c'est Pompée !» Et il courut sur le port. « Oui, dit-il au matelot, oui, c'est lui. Allez et recevez-le avec honneur, malgré le malheur qui lui est arrivé. » Les matelots du haut de l'escalier du navire firent signe à celui qui paraissait commander dans la barque qu'il pouvait monter à bord. Pompée monta. Il avait avec lui Lentulus et Favonius. Étonné de la réception qu'on lui faisait, Pompée commença par remercier Pétitius. Puis, « Il m'a semblé que tu m'avais reconnu avant que je t'eusse appris mon nom, dit-il. M'as-tu vu déjà et savais-tu que je vins en fugitif ?» « Oui, répondit Pétitius, je t'avais vu à Rome, mais avant que tu vinsses, je savais que tu allais venir. »« Et comment cela ? » demanda Pompée. « Cette nuit, je t'ai vu en rêve, non pas comme à Rome, chef ou triomphateur, mais humilié, mais abattu et me demandant l'hospitalité sur mon navire. C'est pourquoi, voyant dans une barque un homme qui réclamait du secours et faisait des gestes de suppliant, je me suis écrié « C'est Pompée !» Pompée ne répondit rien et se contenta de pousser un soupir. Il s'inclinait devant la puissance des dieux qui avait envoyé ce songe, présage de la vérité. En attendant le repas, Pompée demanda de l'eau tiède pour laver ses pieds et de l'huile pour les frotter ensuite. Un matelot lui apporta ce qu'il demandait. Il regarda autour de lui, puis sourit tristement. Il n'avait plus un seul domestique. Il commença à se déchausser lui-même. Alors Favonius, cet homme rude qui avait dit à Pompée « Frappe du pied maintenant !» Favonius qui disait « Adieu pour cette année aux figues de Tusculum !» Favonius se précipita à genoux, les larmes aux yeux, et malgré la résistance de Pompée, le déchaussa lui-même, lui lava les pieds et le frotta d'huile. Et à partir de ce moment, il ne cessa d'avoir soin de lui et de lui rendre tous les services que lui eut rendus non seulement le valet le plus fidèle, mais encore l'esclave le plus soumis. 2 heures après avoir reçu Pompée à son bord, le patron du bateau vit sur le rivage un homme qui faisait des signes de détresse. On alla à cet homme avec un canot, on le prit et on l'amena. C'était le roi Déjotarus. Le lendemain, au point du jour, on leva l'ancre et l'on démarra. Pompée passa devant Amphipolis. À sa prière, on mit le cap sur Mytilène. Il voulait y prendre Cornélie et son fils. On jeta l'ancre devant l'île et l'on envoya un courrier. Hélas, ce courrier n'était point tel que Cornélie devait l'attendre après cette première lettre datée de Dyrrachium et qui annonçait la défaite et la fuite de César. Le courrier la trouva toute pleine de joie. « Des nouvelles de Pompée !» s'écria-t-elle. « Oh, bonheur ! Sans doute m'annonce-t-il que la guerre est finie ?»« Oui, » dit le courrier en secouant la tête, « finie, mais non pas de la façon que vous l'entendez. »« Qu'y a-t-il donc ?» demanda Cornélie. « Il y a que, si vous voulez saluer une dernière fois votre époux, madame, » reprit le messager, « il faut me suivre et vous attendre à le voir dans l'état le plus misérable, sur un vaisseau qui ne lui appartient même pas. » « Dis-moi tout !» s'écria Cornélie. « Ne vois-tu pas que tu me fais mourir ?» Alors le messager lui raconta Pharsal la défaite et la fuite de Pompée et l'accueil qui avait été fait à son mari sur le bâtiment où il l'attendait. Au dernier mot de ce récit, Cornélie se jeta à terre et s'y roula longtemps, égarée et muette. Puis, enfin, revenue à elle-même et sentant qu'en un pareil moment il y avait autre chose à faire que de gémir et de pleurer, elle traversa la ville en courant et gagna le rivage. De loin, Pompée la vit accourir. Il alla au-devant d'elle et la reçut dans ses bras, toute défaillante. « Oh, cher époux ! » s'écria-t-elle, « je te revois, et c'est l'œuvre de ma mauvaise fortune, et non de la tienne. Je te revois perdu sur une seule barque, toi qui, avant les noces de Cornélie, traversa la mer avec 500 vaisseaux. Pourquoi viens-tu me chercher, moi, ton mauvais génie ? Pourquoi ne m'abandonnes-tu pas à mon destin, moi qui t'inonde d'une si grande infortune ? Oh, que j'eusse été heureuse de mourir avant d'avoir appris que Publius, l'époux de ma virginité, avait péri chez les Parthes, et que j'eusse été sage, n'ayant pas eu ce bonheur de mourir de la main des dieux, de mourir de la mienne, plutôt que de devenir une calamité pour Pompée le Grand. » Pompée la pressa dans ses bras plus tendrement qu'il n'avait fait encore. « Cornélie, lui dit-il, tu n'avais connu jusqu'ici que les faveurs de la fortune. Cette fortune est restée longtemps près de moi comme une maîtresse fidèle et je n'ai point à me plaindre. Étant né homme, je suis soumise à l'inconstance du sort. Ne désespérons point, chère épouse, de remonter du présent au passé, puisque nous sommes bien descendus du passé au présent. » Alors Cornélie fit venir ses serviteurs et ses effets les plus précieux. Les habitants de Mytilène, sachant que Pompée était dans le port, vinrent le saluer et le prièrent d'entrer dans leur ville. Mais lui refusa en disant « Soumettez-vous avec confiance à César. César est bon et clément. » Puis il discuta pendant quelques instants avec le philosophe Cratippe sur l'existence de la providence divine. Il doutait, il faisait plus que douter, il niait. À notre avis, c'est, au contraire, la défaite de Pompée et la victoire de César qui nous paraîtrait une intervention visible de la providence divine dans les choses humaines.